Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières. Merci à tous les internautes qui sont branchés sur www.radiookapi.net. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la privatisation des écoles conventionnées catholiques. Il y a un projet qui se prépare dans ce sens. Quels seront les avantages et les dangers? Serge Bondé, secrétaire général de l'ASBEL Imaye et coordonnateur de la campagne École Eza Mombongote, est avec nous dans ce studio. Serge Bondé, dit bonjour.
Bonjour, papa Jeudi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On se retrouve tout à l'heure pour en savoir un peu plus sur ces projets. Cet accord, le projet d'accord entre l'État congolais et l'Église catholique pour la création des écoles privées. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des embouteillages. Comment lutter contre les embouteillages à Kinshasa particulièrement, où la circulation est devenue un véritable casse-tête? On en parle à partir de 11h05 heure de Kinshasa avec Monsieur Robert Matalatala, président de la Commission nationale de prévention routière. Et nous aurons également Monsieur Amos Mbokoso, ministre provincial des Transports. Pour participer à cette émission, composez déjà le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Dieu de l'Nyangassé à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission qu'elle présente jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Voilà Milambo. Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme. Pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Encore une fois, bienvenue dans ce magazine Okapi Service, mesdames et messieurs. Eh bien, à présent, nous allons parler du projet de privatisation des écoles conventionnées catholiques. Quels sont les avantages et les dangers? Eh bien, à l'occasion de la visite du pape en RDC, l'État congolais et l'Église catholique préparent un accord spécifique sur la gestion des écoles conventionnées catholiques. D'après nos sources, cet accord va garantir à l'Église catholique le droit de créer, gérer et diriger librement des écoles privées. Certaines organisations de la société civile donnent l'alerte et appellent à la mobilisation générale pour empêcher la signature et la mise en œuvre de cet accord dangereux pour l'avenir de l'éducation dans notre pays. Pour l'ASBEL Imaye, cet accord consacre la marchandisation de l'enseignement et portera un coup dur à la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Serge Bondedi, secrétaire général d'Imaye, est avec nous dans ses studios. Et il est également coordonnateur de la campagne École Eza Mombongote. Serge Bondedi, bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, nous parlons de ce projet de privatisation des écoles conventionnées catholiques. Vous confirmez qu'il y a un projet qui se prépare, un projet, disons, un accord qui se prépare entre le gouvernement congolais et l'Église catholique dans ce sens-là?
En effet, d'abord avant tout, je tiens à vous remercier infiniment pour cette initiative, parce que l'air est grave, la situation est très délicate, d'autant plus que le microcosme éducatif dans notre pays est menacé. L'environnement du droit à l'éducation est dans un danger potentiel suite aux discussions qui se tiennent au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans en cycle. Je vous confirme donc que les discussions se tiennent en vue de validation et de la signature d'un accord dit spécifique sur l'éducation, lequel accord se fonde sur les dispositions des articles 14 et 16 de l'accord cadre en matière d'instruction et d'éducation et l'article 18 de cet accord. Donc, un accord cadre signé entre le chef de l'État, donc disons entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun. Mais permettez-moi, Papa Jody, de fixer quand même l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre de points. Le premier, Humaye reconnaît à l'Église catholique un certain nombre des valeurs, notamment la gestion, qui est quand même assez orthodoxe, son engagement en faveur de la pédagogie, les investissements que l'Église a fait, qui ne sont pas comparables à d'autres églises ou d'autres confessions religieuses. Humaye est reconnaissant. Deuxièmement, nous tenons pas dire que nous comprenons la peur ou le crainte qui animerait peut-être l'Église face à une gestion qui est un tout petit peu orthodoxe et voire aussi catastrophique à l'endroit de certains animateurs étatiques, parce que nous essayons de comprendre que si peut-être l'Église veut aller très loin dans cette démarche qui est tout à fait irrégulière, parce que peut-être il y a certaines réformes où l'Église voit que de la part de son interlocuteur qui est l'État congolais, il n'y a pas assez de sérieux, alors l'Église veut peut-être, nous ne faisons pas un procès d'intention, mais c'est ce que nous essayons de comprendre, que l'Église veut peut-être organiser des choses en son propre sein. Mais malheureusement, il s'agit ici de l'éducation. Revenons-en à l'accord spécifique sur l'éducation.
Que prévoit exactement cet accord?
L'accord, avant de dire ce que prévoit l'accord, permettez-moi de dire que c'est une démarche qui est illégale, irrégulière, injuste et non fondée. Donc, qui ne valent même pas la peine d'être discutés sur base des éléments que j'ai annoncés et dont je vais donner les contenus. Ce que prévoit l'accord, vous avez, je le ferai en linéaire compte tenu du temps, la RDC doit reconnaître à l'Église, vous l'avez dit dans votre chapeau, la liberté de créer, de diriger librement. C'est ça le terme du projet de texte. Librement des établissements et des centres d'instruction et d'éducation à tous les niveaux. L'accord prévoit l'autonomie de la gestion interne des établissements ou des centres publics d'instruction et d'éducation lui confiés. L'accord prévoit que l'État congolais doit s'engager à financer la construction, la réhabilitation et la sécurisation. C'est bien, mais ce qui dérange, on ne voit pas les engagements de l'Église. L'accord prévoit également, à son article 6, que l'État congolais doit s'engager à partager avec l'Église, à travers la coordination nationale, la gestion du fichier du personnel enseignant administratif et ouvriers de tous les établissements publics d'orientation catholique.
Serge, mais nous savons que quand on parle des écoles conventionnées, ça veut dire qu'il y a déjà une convention entre l'État et ses écoles. L'État a cédé à ses écoles la gestion, a cédé à ses organisations religieuses la gestion des écoles.
Une question qui tombe à point nommé. Vous savez, depuis 1977, d'abord avant d'aborder la question de la convention, le système éducatif a un certain nombre de problèmes, parmi lesquels la question de la gouvernance. Et cette question est tellement assez complexe et est rendue difficile suite notamment à l'existence de la convention qui est devenue obsolète, une convention qui est vieille de 1977. Et dans notre communiqué, nous l'avons dit que une pareille démarche va faire écrouler tous les efforts et progrès accomplis durant les 50 dernières années.
Donc ça veut dire que l'Église catholique veut créer des écoles privées et c'est une façon de contourner la gratuité de l'enseignement.
Donc parmi les éléments qu'il y a dans l'accord, il y a aussi cette possibilité, mais vous voyez par exemple le partage du fichier du personnel enseignant. Ce n'est pas un secret des polichinelles qu'en matière de gestion du personnel, l'Église faille. Vous avez récemment une question sur laquelle nous avons fait des sorties médiatiques, la déclaration du cardinal métropolitain demandant aux enseignants ne confessant pas la foi catholique de quitter les écoles. C'était une déclaration extrêmement grave et qui violait les libertés individuelles. Vous voyez, et lorsque on va donner la liberté de gestion et de fonctionnement à l'Église, aux écoles publiques,
ça veut dire que tous les enseignants non catholiques vont partir.
Vous voyez, c'est une rétrécition énorme sur le plan du respect du droit de l'homme. Vous voyez, et alors la convention qui est devenue obsolète aujourd'hui, il y a des résolutions au niveau international qui encouragent aux États de renforcer le mécanisme réglementaire pour contrôler les prestataires privés. Et parmi ces mécanismes réglementaires ou légaux, vous avez d'abord la loi cadre qui fixe le principe pour la création des écoles privées agréées. Ça, c'est un acquis. Bien qu'en termes de mise en œuvre, il y a beaucoup de failles, surtout l'inspection qui ne suit pas ou qui ne fait pas les études des conditions de viabilité pour l'ouverture des écoles privées agréées. Ça, c'est un acquis légal. Le cadre légal est fixé. Vous avez sur la question des écoles publiques à gestion indirecte, donc qui sont gérées par les confessions religieuses, la convention de 1977 est devenue obsolète. Tenez. Et puisque cette convention est obsolète, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées demandant au gouvernement de réviser cette convention. C'était d'ailleurs parmi les recommandations de la table ronde sur la gratuité. Et cette question a pris suffisamment du retard, mais au moment où nous parlons, nous avons un texte final, un draft final, portant sur la convention de gestion partenariale des établissements publics d'enseignement maternel privé, plutôt maternel, primaire et secondaire. Et ce texte a été partagé, daté du 4 mars, à toutes les confessions religieuses, y compris l'Église catholique. C'est là où maintenant nous disons que la démarche de l'accord spécifique est injuste. Pourquoi ? Parce que au moment où on amène un projet d'accord spécifique, ça coïncide avec la procédure où on attend des confessions religieuses des inputs,
des propositions
pour revoir la convention de manière en sorte que ces projets de texte soient stabilisés. Donc là, l'Église veut choisir son unique chemin.
Donc on peut dire que depuis le lancement de la gratuité de l'enseignement, il y a des soucis, il y a des couacs entre l'Église catholique et les gouvernements, parce qu'on parlait des écoles élites, où les parents payaient un peu plus cher. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec la gratuité, les frais de fonctionnement ne viennent plus comme avant. Alors, l'Église veut peut-être prendre l'option, lever l'option de créer des écoles privées où les enfants vont payer et où les choses vont bien marcher, quoi.
Il est vrai que la gratuité, cette réforme, au moment actuel, nous attendons du gouvernement l'élaboration d'un document des politiques pour renforcer un peu le cadre des gouvernances de la réforme. parce que les mesures qui ont été prises souffrent de soutenabilité. Et surtout que c'est une réforme qui nécessite les moyens. Mais là où nous ne comprenons pas les confessions religieuses dans leur ensemble, et particulièrement l'Église catholique, vous avez des écoles publiques, vous parlez des frais de fonctionnement, ces écoles reçoivent des frais de fonctionnement, ça peut être minime, mais c'est jusqu'à la hauteur de 2 millions de francs congolais, alors que les autres en reçoivent, IAI, on parle de l'augmentation, en reçoivent près de 200 000 francs. Ils sont 10 fois plus. Est-ce, s'il faut traiter certaines questions, il faut aller par la voie de la rébellion ou par voie d'hégémonie. Là, ce n'est pas faire asseoir notre société sur des piliers d'égalité des chances et de traitement égalitaire.
Bien, on va accueillir trois auditeurs. Glody de Kinshasa, Boumediene de Lubumbashi et Kachai de Kanyuka. Glody, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation ?
Oui, merci. Moi, je pense que il faut voir d'abord de loin, parce que cet accord-là, moi personnellement, je trouve que c'est cet accord qui va faire à ce que le niveau de l'enseignement puisse augmenter, ça va encore régresser le niveau de l'enseignement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet accord-là. Nous devons voir les choses dans deux contextes, dans le sens positif et dans le sens négatif. Alors, monsieur Serge, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer au moins dans le sens positif. Qu'est-ce que veut dire réellement cet accord-là ? Parce que depuis que vous avez pu commencer, vous sentez occulter certaines choses, vous n'êtes pas vraiment très clair dans votre langage, s'il vous plaît. Si vous pouvez vraiment dire la vérité des choses telles qu'il est, enfin, ça permet à ce que tous les Congolais qui nous écoutent à partir de ces moments puissent comprendre des choses. Vous savez sans doute que...
Voilà, on a dit tout à l'heure, cet accord spécifique permet à l'Église catholique de créer et de gérer des écoles privées, voilà.
Oui, oui. Vous savez sans doute que l'Église catholique est parmi des religions qui a formé beaucoup de Congolais. Si à 100% des Congolais, moi personnellement je peux dire 90% des Congolais étudient dans les écoles conventionnées catholiques. Alors moi je pense que cet accord-là n'est pas vraiment... Bon, il faut revoir au moins cet accord-là. Parce que quand vous créez vous créez encore les écoles privées, et puis ce que vous avez pu créer avant. Donc vous allez voir qu'il va y avoir une contradictoire là. Au lieu d'améliorer notre façon éducative, on va encore régresser ce qui n'est pas bon.
Merci Glody, merci Glody de Kinshasa. Boumediene de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, bonjour, je dis.
On vous écoute.
Oh oui, vous savez, on nous dit que qui a bu, boira. L'Église catholique a déjà bu. L'Église catholique qui a commencé avec la fille. Il a coûté, l'Église, elle a coûté beaucoup de l'argent. Et surtout que le Vatican ne finance plus l'Église. C'est pourquoi ils se sont...
Boumediene, il y a des soucis par rapport à la communication. Je vais vous demander peut-être de bouger et de diminuer surtout le volume de votre radio parce qu'on vous on entend le retour ici à l'antenne.
Oh.
Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu? On vous entend pas très bien, Boumediene.
Je suis en train de bouger. Maintenant, vous me suivez très bien.
D'accord, plus ou moins bien. Allez-y.
Non.
Allez-y, Boumediene. Non, on reviendra peut-être à vous. La communication n'est pas bonne. Kachai de Kanyuka, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, monsieur Serge.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cet accord spécifique entre l'État congolais et l'Église catholique?
Monsieur Jody, mon propos d'aujourd'hui est articulé sur deux volets. Le premier, sur l'hypocrisie de l'Église. Le deuxième volet, la nonchalance de l'État. Par rapport à l'hypocrisie de l'Église, monsieur Jody, il n'y a pas très longtemps, lorsque l'Église catholique faisait un plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour que la gratuité de l'enseignement soit effective en République démocratique du Congo, allusion faite aux dispositions constitutionnelles en la matière. L'Église demandait à ce que, comme la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement, et les pouvoirs puissent appliquer la gratuité. Mais le pouvoir d'hier avait fait la forte tête à la demande de l'Église. Alors que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir obéissant, où l'enfant qui obéit aux règles de ses parents c'est un enfant béni. Le pouvoir a essayé d'appliquer la gratuité. Mais on ne sait pas comprendre pourquoi. Parce que d'abord, un, les écoles de l'Église catholique sont aussi concernées par la gratuité. Les enseignants sont mécanisés, pris en charge par l'État. Mais on ne sait pas aussi comprendre la duperie de l'Église en ce sens, parce que c'est l'Église qui pouvait même continuer à sensibiliser toutes les autres écoles d'autres confessions religieuses à adhérer à la philosophie de l'État qui veut à ce que les enfants des Congolais, non seulement des riches, mais des pauvres, des villageois, puissent étudier au même plein pied. Ça, c'est un. De deux, monsieur Jody, concernant la nonchalance de l'État. L'État congolais, c'est un État qui veut toujours des pressions. Si vous ne le pressez pas, si vous ne faites pas de marches, si vous ne faites pas de meetings, si vous ne faites pas de sit-ins, si vous ne grévez pas, l'État congolais va rentrer dans sa peau. Et il vous oublie, il va s'intéresser seulement aux ministres et aux catastrophes naturelles. Pour payer les enseignants, il va chercher à ce qu'il y ait le budget. Pendant que, lorsqu'il y a la guerre, je ne sais pas s'il y a un budget de circonstances. Monsieur Jody, l'État congolais devrait négocier nécessairement avec l'Église pour dire à l'Église ceci. Un, dès lors que vos écoles sont en République démocratique du Congo, tous nous devons nous soumettre au dictat de la loi, à la volonté de la loi. Que dit la loi? Un accord ne peut pas déroger à la Constitution. Un accord conclu entre particuliers, l'État et l'Église. En quoi cet accord-là peut avoir de la primauté sur la Constitution de la République qui prévoit des dispositions constitutionnelles? Lesquelles dispositions doivent être observées et par l'État et par l'Église? Deuxièmement, parce que beaucoup d'écoles en République démocratique du Congo sont les écoles conventionnelles catholiques. Au village de Kanyuka, nous en avons aussi, M. Jody. Nous avons une école catholique. Vous comprendrez que l'État, parfois, a failli à sa mission. Il n'a pas d'école partout. Mais l'Église, comme il trouve qu'il a des écoles un peu presque partout, il veut avoir la même mise. Non seulement sur ces écoles-là, et aussi sur l'État.
D'accord. Merci, Kachai de Kanuka. Oui. Rapidement, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
À l'Église. Monsieur Église catholique, c'est vous qui avez plaidé la cause des paisibles citoyens congolais qui n'ont pas de finances. Veuillez accepter à ce que la gratuité qui est déjà effective soit consolidée par votre plaidoyer afin qu'il n'y ait pas des écoles privées pour encore rançonner des peuples congolais. Parce que si vous organisez des écoles privées, à ce moment-là, beaucoup iront chez vous parce que vous avez aussi un enseignement de qualité, tellement qu'il est déploré par le président de la République et le niveau des enseignants. Alors, on va fermer les portes des écoles officielles. Là, on n'aura pas un gain de cause. Merci beaucoup.
Merci à Kachaye. Serge Bondedi.
Oui, merci. Glody m'a demandé de ne pas occulter les débats. Nous avons dit un, que cette démarche est irrégulière parce que pourquoi un accord spécifique à côté de la convention en voie d'être signé par les partis, donc y compris l'Église catholique, et la lettre transmettant le projet de la convention envoyée à toutes les confessions religieuses a été expédiée depuis le 4 mars. Quels sont les aspects spécifiques de cet accord non abordé par la Convention pour que l'Église use d'une méthode ou d'une approche qui favorise les traitements de faveur au lieu de rester sur une approche globalisante fondée sur la justice sociale? Donc, alors que notre Constitution consacre l'égalité des chances et des droits à tous les Congolais, et ces Congolais peuvent être des personnes morales ou physiques. Ça, c'est de un. C'est pour cela que nous disons que c'est une démarche injuste. Nous avons dit que cet accord spécifique se fonde sur les mensonges. Le mot est fort, mais permettez-moi de le dire. Pourquoi? Parce que si vous lisez les textes préambuleurs de cet accord spécifique, il se fonde sur les articles 14 et 16 de l'accord cadre signé le 20 mai entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Je mets quiconque à défi, Monsieur Jody. L'accord cadre, les dispositions de cet accord cadre signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo ne renvoie nullement les parties contractantes, donc le Vatican ou le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, à la signature d'un accord spécifique en matière de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Sur base de cet élément...
Alors, je me demande bien pourquoi vous voyez d'un mauvais œil cette démarche de l'Église catholique qui veut maintenant créer et gérer des écoles privées.
Je suis en train de vous le dire. Dès lors qu'il y a un mensonge, vous savez, je ne suis pas latiniste, mais il y a un principe de droit qui dit « Fraus omnia corrompit ». La fraude corrompt tout. Je ne sais pas, mais je me dis comment on peut arriver. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la CENCO peuvent se retrouver autour des discussions qui naissent des dispositions qui ne renvoient nullement à la signature d'un accord spécifique sur l'EPST. Et curieusement, dans ces discussions, il n'y a que l'EPST, alors que la structuration de gouvernance de notre secteur éducatif est composée de 4 ministères. Donc c'est quelque chose, voilà pourquoi nous avons dit, qui est en train d'être boutiqué entre le ministère de l'EPST et la CENCO. Nous savons peut-être parce que lorsque les élèves payent des sommes pharaoniques, peut-être qu'il y a des gens qui en profitent. Et aujourd'hui, ces discussions boutiquées montrent peut-être que ce sont les deux parties qui en profitent.
Mais il semblerait que le ministère des Affaires étrangères serait aussi impliqué dans ce projet.
Déjà en 2016, nous avons dit au cours de la revue conjointe qu'il faut intégrer le ministère des Affaires étrangères dans le mécanisme des dialogues sectoriels pour qu'il comprenne un tout petit peu comment marche le secteur éducatif. Nous avons dit, monsieur Jody, que cette démarche est illégale. Pourquoi? La loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, en son article 7.3, dispose que seule la convention scolaire est reconnue comme mécanisme par lequel l'État confie la gestion d'une ou des écoles publiques à un partenaire, qui peut être une personne physique ou personne morale. Donc, on peut nous dire aujourd'hui qu'il existait un concordat daté de 1906 entre les Saint-Siège et l'État indépendant du Congo, mais le contexte juridique de l'État congolais a suffisamment évolué. Le Saint-Siège doit quand même se conformer aux progrès qui ont été accomplis du point de vue juridique dans notre pays. Et il y a même les dispositions des articles 132, 133, 134 et 135 de la loi cadre qui ne prévoient nullement la signature d'un accord spécifique. C'est par la convention. Et cette convention est en train d'être révisée. Donc si on veut quitter la table de la revisitation de la convention pour un arrangement particulier qu'on appelle accord spécifique, nous sommes où? Soit nous avons occupé inutilement les bancs pour apprendre. Nous avons dit...
Et les discussions autour de cet accord sont en cours, au niveau de la CENCO.
Au niveau de la CENCO, où il y a l'EPST, la CENCO et les affaires étrangères. Nous avons dit que c'est un accord non fondé parce que il y a les projets de la convention. Ce que les parties prenantes attendent aujourd'hui est que le ministère de l'EPST nous réunisse toutes les parties prenantes pour que nous sachions où en sommes-nous avec la signature de la convention. Vous savez, avec la signature des accords spécifiques, c'est ce qui s'est fait à Mbouéla. Nous avons dit à l'époque comme observateur, lorsqu'il y avait des discussions à Mbouéla, que la question du champ de la gratuité, du champ d'application de la gratuité, qui, bien qu'est fixé par la Constitution et la loi cadre qui, sur base des recommandations internationales, a étendu ses champs jusqu'à la 8e année, nous savons que le gouvernement n'a pas de moyens et il y a des contraintes techniques pour encadrer la gratuité au niveau du secondaire général. Vous pouvez avoir raison, une raison fondée et juste, mais s'il faut limiter les débats entre les banques gouvernementales et les banques syndicales, de jour au lendemain, cela va poser des problèmes. Par suite des arrangements spécifiques, le gouvernement a accédé à la demande des syndicalistes et aujourd'hui, vous avez des problèmes. On a fait la scission du système en limitant comme ça, de manière tacite, les champs, bien qu'il y avait des raisons. Donc, nous disons que j'ai donné les références légales.
Voilà. Donc, si l'Église catholique aujourd'hui crée des écoles privées, pourquoi vous voyez cela de mauvais œil, vous avez même parlé de la marchandisation de l'éducation.
Monsieur Jody, nous ne les disons pas gratuitement. UMAE a des focus parmi lesquels la question de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation. Et au cours du lancement d'une étude où vous étiez d'ailleurs invité à l'INPS à Kasavubu, où il y avait même les responsables au niveau national et de la ville de Kinshasa des écoles conventionnées catholiques, que je salue parce que cette démarche ne peut pas nous diviser. Nous devons maintenir nos relations personnelles intactes, mais nous faisons notre travail. Au cours de cette étude, et UMAE est engagé dans ces processus avec son partenaire Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA, nous avons dit dans cette étude réalisée par OSISA, deux recommandations principales. Il faut que l'État rentre dans ses rôles et fonctions. Et nous sentons petit à petit ce retour de l'État dans son rôle et fonctions. Aujourd'hui, au niveau secondaire, qui peut fixer le frais au niveau des écoles publiques comme se faisait il y a 3 ans? Non, parce que il y a quand même des initiatives encourageantes qui encadrent. Pourquoi nous refusons la privatisation? Vous savez, la privatisation de l'éducation, du fait que elle constitue une sorte d'augmentation de la prise en charge de l'éducation par les acteurs privés, se traduisant par une augmentation de la proportion des acteurs privés impliqués dans un système éducatif, donne la possibilité à la discrimination et aux inégalités. Parce que quand on privatise dans l'éducation, on introduit des méthodes et des approches issues du secteur privé marchand dans l'éducation. Vous avez un exemple. L'accord dit, à son article 10, paragraphe 1, l'État congolais s'engage à protéger les infrastructures et les installations appartenant à l'Église ou bâties sur son terrain, reconnues comme telles affectées à titre principal ou provisoire à un établissement public d'orientation catholique. Ces installations demeurent propriété de l'Église. Deuxième paragraphe, l'État reconnaît à l'Église la propriété foncière et patrimoniale des établissements scolaires qu'elle a construits et les droits d'usufruit des établissements d'instruction et d'éducation de l'État cédé à l'Église. C'est au terme des attributs de droits de propriété.
À l'instant, Serge, on va accueillir les auditeurs. Platini Mbombo de Mbandaka et Safari depuis Gabarrière. Nous avons aussi en ligne Jacques Chimbalanga, coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Platini Mbombo, bonjour.
Bonjour, je salue les deux invités.
Quelle est votre question, Platini?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'on a tous suivi la thématique du jour. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop qui le mettre, parce que l'engagement, ce qu'on a dit, et c'est comme l'invité a tout évoqué, c'est sur le plan de la privatisation. Moi, la question que je vais poser à l'invité, bien que ça, oui, je ne sais pas si l'Église catholique peut nous éclairer un peu sur le plan de l'infrastructure. Bien qu'on peut privatiser, mais sur le plan de l'infrastructure, est-ce que ça respecte aussi les normes? Voilà un peu ce que je voudrais avoir l'idée autour de ça.
Merci Platini. Safari depuis Gabarrière, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi à monsieur l'éditeur.
On vous écoute.
D'accord. À mon avis, je pense que l'Église catholique influence beaucoup, voire même sur le gouvernement congolais, à tel point qu'ils ont peur de l'Église catholique, mais... je ne vois pas là où l'Église est en train de violer la loi, juste quant à ce qui concerne la gérance d'une école privée. Ce que je peux poser comme une question, lorsque une Église crée ou gère une école privée et que l'Église participe dans tout ce qui concerne les droits du gouvernement, à quoi est-ce que cette Église-là a violé le gouvernement? Et puis pour finir, quant à ce qui concerne la gratuité, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas parce qu'une école est privée que les gens vont beaucoup envahir cette école-là, juste pour la collation qu'on paye dans cette école. Mais plutôt que les gens envahissent une école qui se déclare être une école de gouvernement et que là, il y a la gratuité. Donc, que le gouvernement congolais ne puisse pas avoir peur quant à ce qui concerne la gérance d'une école privée. Donc je dis et je vous remercie.
Merci Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEP en RDC. Jacques Timbalanga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes certainement au courant de cet accord spécifique qui se prépare entre le gouvernement et l'Église catholique et qui va autoriser à l'Église catholique de créer et de gérer des écoles privées. Quel est votre avis à ce sujet?
L'accord porte sur la gestion des écoles privées, là n'est pas le problème. Parce que l'école privée, la loi cadre reconnaît à quiconque, personne morale ou physique, de pouvoir créer des écoles privées. Le problème avec l'accord spécifique, c'est que l'accord, dans son écriture actuelle, dans ce draft martyr qui est en train d'être discuté, il est question de donner justement à l'Église catholique la possibilité de créer aussi bien les écoles publiques que privées. C'est là le problème. C'est là tout le problème et l'Église réclame l'autonomie. Vous savez, quand on donne l'autonomie, c'est un attribut de souveraineté de l'État que l'on ne peut pas discuter. Ça veut dire qu'on est en train de dépouiller l'État de son pouvoir régalien.
Mais qu'est-ce que cela veut dire créer, avoir des écoles publiques et privées au même moment?
Mais créer des écoles publiques, ça veut dire quoi? En fait, l'Église peut se décider un jour, sur un espace donné, de créer une école sans demander la permission, parce qu'ils auraient alors, en ce moment-là, bénéficié de l'autonomie. Quand on bénéficie de l'autonomie, et donc l'État n'a presque plus un mot à dire là-dessus. Et on peut justement assister à un foisonnement d'écoles de l'initiative de l'Église. Vous savez déjà que le pays a un grand problème. Aujourd'hui, si nous avons une masse importante d'enseignants non payés, de nouvelles unités, pour la plupart des cas, c'est voulu et fait par les conventionnés, pour la plupart des cas, notamment les catholiques, les protestants et les autres. Et donc, ce que l'accord spécifique, en ce que, un, elle demande l'autonomie pour l'Église catholique de pouvoir créer des écoles. Elle demande l'autonomie. Pour la gestion, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, l'État crée les écoles qu'il donne à la gestion. De toutes les confessions religieuses, là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est déjà comme ça que ça fonctionne chez nous. Parce que c'est déjà comme ça que se fait la gestion indirecte. C'est comme ça que cela est conçu. Mais aujourd'hui, on peut se demander pourquoi l'Église catholique demande un accord spécifique. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Qu'est-ce que l'État ne tenait pas compte dans la convention de gestion que l'on est d'ailleurs en train de reviser, que l'on trouverait dans l'accord spécifique? En réalité, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. L'Église catholique du Congo veut tout simplement gérer en mode privé toutes les écoles, aussi bien publiques et privées que sous leur juridiction, bien entendu.
Jacques Timbalanga, est-ce que c'est une façon de contourner la gratuité de l'enseignement?
Je crois que c'est beaucoup plus. Je crois que c'est beaucoup plus grave que cela. C'est une manière de réinstaurer, en tout cas de manière incontrôlée, la marchandisation dans l'éducation, dans le secteur public contrôlé par les catholiques. Mais ils vont plus loin. Ils demandent à l'État de leur céder la gestion même du fichier de paye des enseignants. Vous comprenez? Ça veut dire que, en réalité, l'Église catholique se considère comme l'État dans un État. Cela ne peut pas se faire. D'où notre cri d'alarme que l'État ne considère pas, surtout le gouvernement. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement doit continuer à négocier sur ce genre de choses-là. La question de la création d'écoles publiques doit relever de l'État. Ça peut être des propositions d'ailleurs, mais c'est d'abord le pouvoir régalien de l'État. La gestion, justement, le recrutement des enseignants, ça doit être le pouvoir de l'État. Écoutez, aujourd'hui, si l'on donne à l'Église catholique le pouvoir lui-même de gérer, de recruter les enseignants, je crois qu'on en a vu de toutes les couleurs. Aujourd'hui, c'est une manière, nous comprenons que c'est une manière de faire une fuite en avant par rapport à la réforme qui est en train, qui est en cours sur la réforme
de la révision de la convention de gestion.
Oui. La révision de la convention. Les catholiques ont gelé, ils ont gelé. Ce sont eux qui sont à la base du fait que cette histoire-là traîne. C'est donc des manœuvres dilatoires. Maintenant, on comprend. Ils avaient donc le souci de pouvoir gérer les écoles en privé. Cet accord spécifique n'est ni plus ni moins un moyen de privatiser l'État, de privatiser plutôt les écoles publiques, et un moyen de se donner les moyens, justement, de continuer à œuvrer comme un État dans un État, ce qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui donc, l'État doit ouvrir l'œil et le bon. Ce qui est malheureux, c'est que aujourd'hui, cet accord, il y a d'abord eu l'accord cadre qui a été signé et qui aboutit aujourd'hui aux discussions sur l'accord spécifique, mais il y a aujourd'hui des aspects qui ne peuvent pas passer. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'État de vous donner le fichier de paie des enseignants pour que vous gériez les enseignants, vous les recrutiez vous-même, ainsi de suite et ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème, c'est que la gestion, le recrutement des enseignants doit être l'apanage de l'État qui doit les mettre à la disposition des opérateurs ou des gestionnaires des écoles. C'est ça ce qui doit être fait.
Merci.
Pour éviter les abus.
Les abus, voilà. Les abus. D'accord, merci.
Il y a eu beaucoup d'abus.
D'accord.
Il y a eu beaucoup d'abus dans la gestion du personnel enseignant. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, quelqu'un se réveille. Parce que vous n'avez pas respecté les normes en ce qui concerne l'Église. On vous dit donc voilà, on vous met à la disposition de l'État. Mais écoutez, là, plus de deux, c'est que les gens oublient. Dans un passé récent, il y a un passé récent ici. Le cardinal Ambongo, le cardinal Ambongo, en tant qu'archevêque de Kinshasa, avait déjà poussé les couleurs. Il a dit à un moment donné que pour les catholiques, ils veulent que dans les écoles catholiques, l'enseigne que les enseignants qui sont qui professent la foi catholique. Je crois que si l'État leur donne cette autonomie, eh bien, l'État
les autres vont se retrouver dehors.
Violer impunément les dispositions de la Constitution qui demandent que aucune personne, aucun citoyen, membre de la communauté nationale, ne puisse être discriminé en fonction de sa religion ou même de sa ligne de pensée philosophique et autres.
D'accord. Merci Jacques Tumbalanga.
L'État ne doit donc pas céder ce qui est dans son pouvoir régalien au profit d'une Église, même s'il faut faire en sorte qu'il faut faire presser parce que le pape est en train de venir. Non. On ne doit pas faire presser parce que le pape est en train de venir. L'Église veut monter cela aux enchères pour dire que non, voilà, avant que le pape ne vienne,
on doit déjà finaliser cet accord. Merci Jacques Tumbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Bonne journée. On va accueillir Madame Evelyne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, David Daniel. Bonjour à notre invité, un peu des éditeurs de la Radio Papi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces projets d'accord spécifique entre le gouvernement congolais et l'Église catholique?
Daniel, moi, je suis étonnée du fait que si l'Église est implantée dans une nation, c'est pour aider les malheureux qui sont là, c'est pour compatir, n'est-ce pas, à la souffrance des autres, ramener les âmes vers le Seigneur. L'Église doit prêcher l'amour, et cet amour doit être manifeste. Mais cette Église, moi je me demande, est-ce qu'elle était ici pour la politique, ou elle était ici pour accomplir la mission de l'Église? Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Les catholiques doivent savoir qu'ils doivent se soumettre. L'État reste souverain. Ils sont dans une nation qui a ses lois, qui a sa philosophie. Le personnel des écoles qu'ils ont, ce personnel-là est payé, pris en charge par l'État. Mais non, ils doivent quand même avoir le minimum de respect envers le gouvernement congolais. Ou carrément, Il quitte le sol congolais pour aller construire ailleurs.
Madame Evelyne, cela veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet-là de construire des écoles privées et de gérer les fichiers des enseignants. Vous n'êtes pas d'accord avec cela.
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça.
D'accord, merci. Christian, vous êtes à Bounia.
Je suis pas d'accord. Ils doivent respecter le gouvernement.
Merci. Christian de Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, l'auditeur de la Radio Capi. Bon, les projets que le gouvernement congolais fait sur les écoles catholiques, bon, moi aussi, je suis un élève, j'étudie aussi dans l'école de l'étant toujours adventiste. Comme aussi, je vois des écoles comme on construit des enseignants, comme les enseignants, ils enseignent dans l'école. Bon, je vois toujours, bon, le gouvernement d'abord doit mettre un engagement d'abord naturel, d'abord de faire quelque chose pour les enseignants et pour les médecins, de construire une grande école des élèves qui doivent commencer à étudier dedans, parce que je vois ici d'abord...
Christian, est-ce que vous êtes pour ou contre ces projets d'accord spécifiques dont nous parlons?
Je suis pour ces projets, mais je voulais que le gouvernement doit faire ces projets-là vraiment bien, parce que nos gouvernements disent toujours comme ça, après c'est alors qu'ils sautent des jours devant quelque chose, ils ne font pas cela.
D'accord, merci Christian de Bounia. Serge Bondé dit, vous avez suivi tous les auditeurs, vous avez écouté également Serge, Jacques Timbalanga. Alors, à vous la parole.
Oui, je ne sais pas si le cordon est déjà de retour dans la capitale. Je le salue de là où il est.
Le cordon Jacques
Timbalanga.
D'accord.
Oui, s'il est déjà de retour dans la ville.
Il a dit que ce projet va consacrer la marchandisation
en effet,
de l'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire?
La marchandisation de l'enseignement, c'est-à-dire la transformation de l'éducation en un produit marchand source de profit. Je vous donne l'exemple. Au niveau de l'inscription, je vous cite le collège ici à Kinshasa, le collège Saint-Joseph. L'inscription est gratuite, certes, sur papier, mais il fallait que chaque enfant apporte un banc. Un banc.
Un banc à
donner à l'école.
Ça peut être en espèces, amenez l'équivalent. C'est combien un banc coréen?
Ça revenait à 100 dollars.
$100.
Ici à Kinshasa.
Oui.
Vous avez les épées Bosangani ici. Les écoles primaires où la gratuité doit s'appliquer, bien que ces écoles reçoivent 2 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement, qui est moins 10 fois plus supérieur à l'épée Mouchi à côté ici à Lingwala. Mais vous avez le frais de construction et les gens s'organisent toujours pour échapper au contrôle de l'État, c'est-à-dire... Puisqu'on sous-attend que l'éducation est source de profits, il faut passer par les comités des parents qui mobilisent les leurs et on forme.
Mais il semble que beaucoup de comités sont corrompus, sont complices.
Ils se retrouvent.
Dans les écoles.
Ils se retrouvent. L'éducation est devenue business fluorescente. Ils se retrouvent. Alors, puisque les gens sont campés, donc, ils sont campés dans cette philosophie, il faut tout faire pour que le business school continue. Alors, lorsque l'Église reconnaît, demande même la gestion des terres, les attributs de droit de possession des terres, vous voyez à Kinshasa, ici déjà, il se développe ces phénomènes de morcellement des espaces scolaires publics où on est en train de lotir des établissements privés. Et on dit même aux élèves que nous sommes en train de créer une école privée
à côté.
Si vous voulez bien étudier, l'année prochaine,
allez
là-bas. On va transférer toutes les sections là-bas. Je vous cite l'exemple du collège Notre-Dame du Congo et le collège Bosembo. Une école publique qui fonctionne le matin avec des bâtiments publics, les immobiliers publics et tout comme immobilier public avec le personnel public de l'État, mais on prend le tout, on confie ça à l'école privée. Et cette école paye-t-il le loyer à l'État congolais? Il y a un contrat de bail pour l'occupation des bancs, des bâtiments. C'est ça, en fait. Lorsqu'on transforme l'éducation en un produit marchand, source de profit, C'est là la marchandisation de l'éducation. Le cordon a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Mm-hmm. Les attributs de souveraineté. Nous sommes citoyens. Nous vous invitons l'Église, la Synco. Moi, je doute que cette initiative de l'accord spécifique vient, je ne sais pas, mais je doute que c'est une initiative qui vient du Saint-Siège. Parce que l'article 14 de l'accord cadre renvoie les parties contractantes à la signature d'un accord spécifique sur la reconnaissance des titres académiques octroyés par des instituts de niveau supérieur. C'est-à-dire des institutions de l'ESU. L'accord spécifique devrait être signé entre la Synco et l'ESU sur la reconnaissance des titres académiques octroyés par les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de l'Église.
Et si l'État congolais signe cet accord spécifique, les autres conventions voudraient aussi à leur tour avoir des accords spécifiques avec l'État.
Ça sera un désastre. Là, nous ne sommes pas dans un pays. Parce qu'on ne peut pas quitter le principe général, la loi qui demande à ce que j'ai donné les dispositions ici, l'article 7.3, les articles 132, 133, 134, 135 de la loi 4 sur l'enseignement, qui fixe le mécanisme par lequel l'État reconnaît aux partenaires la gestion indirecte des écoles publiques, ou soit la création des écoles privées, pour aller dans un accord spécifique. Vous savez, il y a quand même, c'est quand même important de dire quelque chose. Vous savez,
oui, rapidement, comment on arrive à la fin?
L'article premier présenté par l'accord spécifique dans cet accord pose le problème où on veut reconnaître à l'Église la création des écoles privées. Non. La gestion des écoles privées relève du secteur privé et ne peut intervenir dans une convention d'ordre public. Donc, ça sera malsain de voir le gouvernement, soit par le chef de l'État, ou par le Premier ministre, ou le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, signer une convention, un accord d'intérêt public pour reconnaître au privé un droit privé.
Vous êtes contre cela.
Le monde en affaire.
Et comment comptez-vous vous dénoncer aujourd'hui? Et alors, comment comptez-vous, quelles sont les actions que vous comptez mener pour empêcher la signature de cet
accord? Cette émission est un grand appui. Nous allons partager et nous allons envoyer les documents jusqu'au Vatican. Nous allons faire des sit-ins, nous allons faire ce qui relève de notre pouvoir de faire. Ce sont des actions citoyennes non violentes, ce sont des communications et des mobilisations communautaires. On peut se limiter qu'à là. Si l'État et son partenaire, l'Église, s'engagent à l'anarchie, on constaterait que nous sommes une société anarchique. Mais ça serait quand même malsain de voir l'Église s'engager dans une voie de l'injustice et de l'anarchie.
Au moment où nous parlons, les discussions continuent.
Oui, jusque là, les discussions continuent au siège de la Synco, dans la grande salle, la salle mythique, où il y a eu la signature des accords particuliers avec l'histoire des élections.
Voilà, Serge Bondé dit merci. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'ASVEL IMAE et coordonnateur de la campagne Koleza Mbongote. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, Papa Jody. Et je salue le responsable de l'Église. Nous le faisons par passion du droit à l'éducation.
Merci.